On va revenir peut-être maintenant avec vous, Heinz Rachel, plutôt sur cette conférence et ce titre qui mérite explication, le processus de décivilisation. Est-ce que vous pouvez commencer par là peut-être et nous dire ce que vous entendez vous personnellement par décivilisation ?
J'ai essayé de le dire tout à l'heure, donc le fait que l'Allemagne retombe dans une sorte de barbarie à la première moitié donc du XXe siècle. Cette civilisation si brillante, si enviée au fond même en Europe. Parce qu'il faut bien savoir, par exemple, dans ma première conférence, je parlerai évidemment bien sûr de l'aspect historique, l'approche historique de cette question, que par exemple cette Allemagne, en quelques années, avait doublé facilement donc l'Angleterre pour la production industrielle, économique et ainsi de suite, que c'est finalement celui qu'on considère en France comme le père Victoire, Clémenceau, qui, avec le traité de Versailles, au lieu de mettre fin aux guerres du XIXe siècle, a plutôt provoqué les guerres du XXe siècle, parce que Clémenceau voulait briser cet élan allemand. Il est vrai qu'entre 1870 et 1914, par exemple, la production allemande a été multipliée par 5. Si la richesse en 1870 était comparable en France et en Allemagne, en 1914, la richesse allemande est passée de 70% la richesse française, et ainsi de suite. Donc l'Allemagne, si vous regardez ce pays, j'ai essayé au tout début de le souligner, dans tous les domaines, l'Allemagne était précurseur quasiment dans les sciences, dans les arts, dans les lettres, partout ce que la France a été quelques siècles auparavant. Et donc, d'un seul coup, si vous voulez, donc le fait de tomber dans cette violence, dans cette barbarie, c'est ça que j'appelle décivilisation. Et processus, c'est parce qu'il y a tout un processus que j'essaye d'expliquer par des approches différentes. D'abord, une approche historique. Cette approche historique, si vous permettez, en une minute, tous les historiens, les plus célèbres actuellement, qui traitent la question, commence toujours par le traité de Versailles et explique évidemment, ils ont raison, n'est-ce pas, donc de montrer à quel point ce traité de Versailles a été une humiliation pour l'Allemagne. Il est vrai que les Allemands ne se sont jamais remis au fond de cette humiliation. Il est vrai, par exemple, Plessner qui a appelé donc l'Allemagne la nation tardive. Si vous comparez l'Allemagne avec la France ou avec l'Angleterre ou d'autres pays, vous verrez que l'Allemagne était au fond la dernière nation européenne à faire son unité nationale. Donc, d'où l'idée, n'est-ce pas, de nation tardive. Ça veut dire que d'un seul coup, cette Allemagne qui économiquement, militairement, dans tous les domaines, a connu une véritable explosion favorable, a voulu avoir sa place dans le monde, alors que cette Allemagne avait été, vous savez, jusque-là totalement morcelée, et comparée à la France, comparée à l'Angleterre, qui possédait, vous savez, des colonies, la terre entière quasiment, cette Allemagne était restée au fond, au centre donc de l'Europe. Voilà donc d'un seul coup, cette Allemagne qui devient une grande puissance, et cette Allemagne veut, d'après donc notre cher empereur Guillaume II, dominer le monde, donc être parmi les grandes nations et même dominer les autres nations. Malheureusement, je n'ai pas le temps de parler de Guillaume II, malheureusement. Alors donc, ceci étant, ça c'est une approche qui ne me satisfait pas complètement. Évidemment, bien sûr, après on explique la République donc de Weimar. C'est vrai que malheureusement, cette République qui était la première République allemande n'a pas eu de chance. Elle était contestée à la fois par la droite et par la gauche. Par la droite, évidemment, parce qu'au fond, cette République avait été imposée par Versailles, par les étrangers. Donc la démocratie était quelque chose qui n'était pas allemande. Voilà. Et de l'autre côté, par la gauche, évidemment, parce qu'on n'allait pas assez à gauche. On n'était pas assez social, on n'était pas assez socialiste, etc., etc. Liebknecht, vous savez, Rosa Luxemburg et d'autres, vous connaissez bien. Alors, simplement pour vous dire, donc, cette République, au fond, qui n'a demandé qu'à grandir et à prospérer, elle a été vraiment quasiment, vous savez, tuée dans l'œuf.
Ben, voilà. Comme ces figures que vous venez de citer, ils ont été assassinés. Voilà. Finalement, ça a mis fin
absolument.
Aussi à ce mouvement
démocratique. Oui, absolument. Et donc, si vous voulez, ce qui a fait que cette République de Weimar n'a pas réussi, c'est d'abord le traité de Versailles, les réparations de guerre, absolument, vous savez, pardonnez-moi l'expression folle, voilà, que l'Allemagne ne pouvait pas satisfaire. Donc l'Allemagne s'est effondrée économiquement une première fois en 23. Que fait la France ? La France occupe d'abord quelques villes. Mülheim, entre autres, n'est-ce pas, qui est notre ville jumelée, Duisburg, Düsseldorf, etc. Quelques ponts en Allemagne du Sud, ensuite des régions entières et ensuite toute la Ruhr entière. Donc l'Allemagne ne possède même plus le seul centre industriel qui lui restait, puisque la Silésie avait été donnée à la Pologne. Donc, si vous voulez, l'Allemagne économiquement est morte. Sauf en 23-24, les Américains se réveillent quand même et acceptent un plan d'os, donc le plan d'os, et injecte 800 millions donc, de dollars dans l'économie allemande. Ce qui fait que l'Allemagne de Weimar va prospérer et que ce que nous connaissons maintenant avec l'amitié franco-allemande a déjà existé entre Stresemann et Briand, entre 24 et 28.
Des pro-européens, il faut aussi le souligner.
Absolument. Hein. Donc tout était vraiment pour le mieux. Malheureusement, 29, la crise, n'est-ce pas ? Que font les Américains ? Ils retirent les capitaux qu'ils avaient injectés en Allemagne. L'Allemagne s'effondre totalement. Et je termine avec donc, cette première partie, si vous voulez. Si vous superposez la situation économique de l'Allemagne et les élections du NSDAP, donc des nationaux-socialistes, vous verrez que ça cadre exactement. Ils ont quasiment sur 648 députés. Au début, ils ont 14, 12, etc. Et seulement, voilà, à la crise donc, de 29, d'un seul coup, ils montent à 230. 230 en 28. Voilà, d'abord 100 et quelques, après 230. Et après, un deuxième plan américain, Young, donc, voilà, qui met fin aux réparations, hop, les nazis perdent tout de suite quelques sièges. Donc, juste pour vous dire que ça, c'est donc l'approche historique qui est parfaite, qui est très bien, mais qui, à mes yeux, n'explique pas totalement tout. Oui. C'est-à-dire, c'est pour ça que je prends une autre approche, encore trois autres. Mais donc, la deuxième approche est pour moi une approche sociologique. Oui. Et là, contrairement donc à l'histoire, la sociologie réfléchit, si vous voulez, sur le long terme. N'est-ce pas ? Donc, elle fait des développements sur le long terme et elle établit un lien direct entre le comportement social et national et donc l'histoire d'un pays, et en particulier le processus de structuration de l'État. Donc, si vous voulez, donc les sociologues disent que finalement, ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est bien en quelque sorte le fruit, le résultat de notre histoire, de l'évolution antérieure. Et surtout, une donnée en sociologie que je vais mettre en avant, c'est que le caractère national, le comportement national n'est pas du tout une donnée génétique, mais est la suite véritablement donc, du processus des structures étatiques. Et là, je vais essayer, j'en ai terminé pour la deuxième partie, je vais essayer donc de montrer, par exemple, que la particularité des structures étatiques en Allemagne commence par sa situation géographique. Et là, il y a enfin, beaucoup de publications, surtout Karl Jaspers, qui était, vous savez, l'autre pendant de Heidegger, par exemple, qui dit qu'évidemment, cette Allemagne...
Elle est au centre.
Elle n'a pas de frontières naturelles.
Oui, c'est vrai.
Regardez l'Angleterre. L'Angleterre a pu se permettre des dizaines, des centaines d'années de faiblesse militaire, intérieure, etc. Elle n'en fut pour autant, elle n'en fut jamais conquise. Jamais. Alors que la moindre faiblesse en Allemagne, l'Allemagne a été la proie du Nord. Pensez à la Suède, la guerre de 30 ans, de l'Est, du Sud, de l'Ouest, etc., etc. Donc, en clair, pensez uniquement à la France et à l'Allemagne, Louis XIV et les autres. Chaque fois que l'Allemagne était faible, les Français sont venus et ont envahi l'Allemagne. Bon, très bien. Juste, voilà. Donc, de ce fait, l'Allemagne, ne serait-ce que pour subsister en tant qu'ethnie, communauté ethnique, devait produire des états militaires. Donc, ce rôle a été joué longtemps par l'Autriche et ensuite par la Prusse. Donc, ces états militaires ont imposé une attitude des Allemands, c'est-à-dire une servilité, l'obéissance, etc., etc. Donc les structures, vous savez, sont nées comme ça. Oui. Alors que lorsque les dictatures apparaissent, au fond, les Allemands n'en étaient pas très loin de ces dictatures, que ce soit la monarchie, vous savez, de Guillaume II ou d'autres. Si vous lisez des livres, je ne sais pas, vous savez, des Untertan ou d'autres, on ne peut que rire de ces attitudes de ces Allemands face à la noblesse ou d'autres, etc., etc. Et pour terminer, et j'en ai ensuite vraiment terminé, je fais donc une troisième conférence sur ce que j'appelle donc l'approche philosophique, psychanalytique et civilisationniste. Donc là, si vous voulez, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est une émission à la télé qui s'appelait, c'était vers le 20 novembre, si mes souvenirs sont bons, qui s'appelait « Jeunesse sous influence », et où on voyait quelques nonagénaires expliquer, n'est-ce pas, comment ils ont été enrôlés dans la jeunesse hitlérienne, et au fond, encore maintenant, même s'ils regrettent tout, si vous voulez, on voyait encore un tout petit peu cette, comment dire, enthousiasme, finalement pour cette nostalgie, pour cette communauté qu'ils ont formée. Et je vais en parler surtout parce que, n'est-ce pas, ce sont ces jeunesses hitlériennes, ces jeunes qui étaient les vrais, les purs nazis, jusqu'au boutiste, si vous voulez. Ils mouraient, vous savez, le sourire aux lèvres. Ils mouraient, ils sont morts encore dans les derniers jours, si vous voulez, pour le Führer, etc., etc. Donc là, je vais essayer de l'expliquer par la psychanalyse. Et c'est assez simple. Et donc, si vous voulez, pour terminer, donc, je vais essayer de placer donc, l'épisode donc, du national-socialisme dans un contexte un peu de civilisation, de philo. Et je vais essayer, n'est-ce pas, de montrer que si, en Europe, nous avons une civilisation gréco-judéo-romano-française commune. L'Allemagne a toujours essayé, depuis Luther, n'est-ce pas, de sortir de cette civilisation européenne commune. Luther, en revenant, n'est-ce pas, sur la Bible, en disant que c'est le texte authentique, la parole de Dieu, en jetant, n'est-ce pas, par-dessus bord, si vous voulez, toute l'évolution de l'Église catholique jusque-là. Après, vous avez finalement le classicisme allemand, qui retourne à la Grèce antique. Et bon, là aussi, je vais raconter quelques anecdotes groquignolantes, où les plus grands esprits allemands, n'est-ce pas, se trompent tellement sur la Grèce antique comme modèle. Ensuite, vous avez par exemple Wagner, le retour vers les Germains. Après, vous avez, mettons, Stefan Georg, retour vers la Grèce. Et vous avez au fond le national-socialisme, qu'est-ce qu'il fait? Le retour vers les Germains, à nouveau, les Ordensburgen, enfin, et ainsi de suite, etc., etc. Donc voilà, c'est à peu près résumé en quelques minutes ce que je vais faire dans les trois conférences. Donc, pour moi, c'est une globalité et que, vraiment, si vous ne faites qu'une seule approche, à mes yeux, on ne réussit pas à expliquer vraiment.
Oui, mais il y a une carence puisque tout est imbriqué, finalement.
Voilà, mais ça n'a jamais été fait. Jamais, nulle part. Donc, ce que je vais faire, ça n'a jamais été fait nulle part, ni publié. Donc, c'est nouveau, je vais essayer, mais je pense, encore une fois, si vous me donnez encore une minute, je suis...
Allez-y, hein, on vous écoute avec intérêt.
Je suis à la fois, si vous voulez, je traite ça pour deux raisons. La première raison est bien sûr une raison professionnelle, parce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai enseigné ça. Mais cette transmission, pour moi, n'était pas uniquement une transmission pure. Je suis né à la fin de la guerre, je suis né à Marienbad. Tous les hommes étaient morts. Je n'ai jamais connu mon père. Dans ma famille, il n'y avait que deux vieillards, mon grand-père et mon arrière-grand-père. Et ensuite, en 1955, est arrivé le père de mon cousin, après 10 ans de captivité en Union soviétique. En 1955. La guerre s'est terminée en 1945. Si vous voulez, nous sommes arrivés, nous, en Allemagne, vous savez, on a vécu, vous savez, dans des wagons à bestiaux, vous savez, pendant plusieurs mois, rien à manger, rien du tout, vous savez, on mangeait les écorces des arbres qu'on faisait bouillir, etc., il n'y avait rien. Et nous sommes arrivés en Allemagne avec 5 kilos de bagages. Donc, juste pour vous dire, si vous voulez, c'est à la fois, n'est-ce pas, nous avons été blessés dans notre chair, touchés au plus profond de notre chair. Je n'ai jamais connu d'homme dans ma famille, en dehors d'un grand-père qui était vieux, vous savez, d'un arrière-grand-père qui est mort après. Donc, c'est, voilà, par exemple, donc, cette Allemagne qui était hyper pauvre. Pourquoi, si vous voulez, en dehors de l'intérêt professionnel, là aussi, mais comment était-ce possible? Qu'avez-vous fait? Donc, c'était des questions que nous avons posées à nos parents. Parents, ça veut dire ma mère. Ma mère était une pauvre femme qui était très loin de toute politique, si vous voulez. Elle était masseuse, voilà, on appelle ça maintenant kiné, vous savez, à Marienbad, vous savez, dans les grands hôtels, dans des machins comme ça. Mes parents possédaient un hôtel, c'était terminé, c'était fini, bien sûr. Mais voilà, donc on a fini comme ça en Allemagne, alors que nous n'étions pas pauvres du tout à Marienbad. Vous voyez, par exemple, ma mère a été fouettée publiquement, nue, tout nue, sur la place Marienbad, parce qu'elle avait mis une bande tchèque pour dire qu'elle était tchèque. Elle parlait parfaitement le tchèque pour avoir un peu de lait pour moi. Voilà, il n'y avait rien. Nous n'avions rien à manger. Donc, et ainsi de suite. Voilà, donc 1000 choses, si vous voulez. Donc, vous voyez, il y a à la fois l'intérêt professionnel en tant qu'enseignant de l'université, et bien entendu aussi quelque part, n'est-ce pas, donc quelque chose, c'est-à-dire pourquoi, comment ça a pu arriver. Comment ça a pu arriver. Avec ma grand-mère, avec laquelle j'ai eu beaucoup, beaucoup de discussions et une amitié, mais absolument, vraiment incroyable avec ma grand-mère, elle n'aimait pas. Mais il ne faut pas la répéter, il ne faut pas le dire, hein, vous l'enlevez. Elle n'aimait pas les Allemands du rail. Voilà.
Bon, en tout cas, non, c'est très intéressant, évidemment, de vous entendre parler. Et puis, on sent effectivement que ça vous tient à cœur, évidemment, puisque c'est aussi votre histoire en partie. Je rajouterais juste, du coup, pour être complet là-dessus, sur les trois, finalement, c'est une conférence en trois thèmes, vous l'avez dit.
Oui, c'est ça.
Une approche historique qui aura donc lieu samedi 17 février. L'approche sociologique que vous avez bien décrit le samedi 17 mars, toujours au centre franco-allemand.
Oui,
toujours. Voilà, on est bien d'accord. Et la dernière phase, c'est l'approche donc philosophique et civilisationniste qui aura lieu le samedi 14 avril, donc grosso modo une par mois, quoi. Conférence par mois. Donc pour nos auditeurs qui aimeraient suivre la globalité de la conférence, en tout cas sur ces trois thèmes, je les invite à se rendre aux trois dates que je viens de citer au Centre franco-allemand de Touraine. Eh bien, je vais aussi en profiter pour donner l'adresse du Centre franco-allemand de Touraine, quand même, puisque c'est important. Vous me dites si je me trompe, hein, 18 rue Galpin, Tiu, c'est ça? Voilà, c'est assez drôle. Et c'est à Tours, hein, évidemment. C'est à Tours. Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Peut-être à vous remercier. C'était très intéressant. L'heure est passée très vite, d'ailleurs.